Bonsoir à toutes et à tous. Nouveau coup de théâtre dans l'incroyable feuilleton du Brexit. Le vote historique qui devait avoir lieu aujourd'hui est reporté à mardi prochain. Boris Johnson continue de marteler que le Royaume-Uni quittera l'Union européenne à la fin du mois, donc dans 12 jours. La balle est dans le camp du Parlement. A-t-on sous-estimé la volonté et la détermination de Boris Johnson à opérer ce changement historique pour la destinée du Royaume-Uni? Quel est l'avenir de la Grande-Bretagne en dehors de l'Union européenne? Et qu'est-ce que cela va changer pour nous, concrètement, de ce côté-ci de la Manche? Et puis cet accord négocié à Bruxelles marque-t-il le début de la réunification de l'Irlande? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir « Brexit, le bras de fer de Boris Johnson ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Patrick Martin-Jeunier, spécialiste des questions européennes et internationales, enseignant à Sciences Po et auteur de « L'Europe a-t-elle un avenir ?» C'est aux éditions Studirama. Marion Van Rentergem, vous êtes journaliste, vous étiez grand reporter au Monde et vous êtes l'auteur de « Mon Europe, je t'aime, moi non plus », c'est chez Stock. Anne-Elisabeth Moutet, journaliste, éditorialiste au journal britannique « Le Daily Telegraph », c'est le journal dont Boris Johnson était le correspondant et l'éditorialiste. Vous nous direz quelle marque il a laissée. John Henley, correspondant pour « Le Guardian », donc journal britannique, hein, chargé des affaires européennes. Alors d'abord, qui se dévoue? Parce qu'on n'y comprend plus rien, même voter, c'est compliqué apparemment en Grande-Bretagne quand on parle du Brexit.
En fait, voter, oui, mais c'est très simple de voter à la condition que le président de la Chambre des communes, John Bercow, accepte les amendements. Et c'est lui qui fait le choix. Il a eu un rôle très important et il a accepté cet amendement Letwin qui revenait en réalité à retarder le vote sur le fond de l'accord à condition qu'on ait voté l'ensemble de la législation sur l'aspect social, environnemental, fiscal. Et donc, de fait, ça reporte effectivement le vote sur le fond de cet accord. Et en gros, c'est un échec pour Boris Johnson aujourd'hui, dans la mesure où, effectivement, par 322 voix...
Alors, pour comprendre ce qui s'est passé, en fait, les députés de la Chambre des communes ont dit on voudrait d'abord voir ce qu'il y a concrètement dans cet article avant de se prononcer,
c'est bien ça.
Et comme cet article a 600 pages, on ne va pas voter là dans la journée.
Absolument. Il y avait deux buts, en fait, de cet amendement. Le premier, c'était d'éviter un sorti sans accord par accident le 31 octobre. Pourquoi ? Parce que le vote programmé pour aujourd'hui sur le deal, donc le grand vote que tout le monde attendait, c'était une sorte de vote d'approbation générale. Ce n'était pas l'examination du texte de l'accord dans le détail.
On est d'accord sans avoir regardé ce qu'il y avait dedans.
Exactement. Exactement. Si les députés avaient approuvé l'accord en général aujourd'hui, et parce que la loi oblige l'examination en profondeur. Si l'examen en profondeur n'était pas fini avant le 31 octobre, qui est la date limite, il y aurait un véritable risque de sortie sans accord le 31. Donc il fallait empêcher ce risque-là, il fallait obliger le gouvernement et il fallait obliger le Parlement d'approuver chaque clause, chaque page du deal, les 600 pages, avant de donner son approbation sur la totalité.
Alors, la procédure est tellement compliquée, simplement, les grandes lignes, une sortie, parce que Boris Johnson dit, mais le calendrier sera respecté, nous sortirons le 31 octobre et il y aura bien un accord, et tout ça est possible. Le calendrier est encore possible, hein, Anne-Elisabeth Moutet.
Alors, il s'agit de voir tout de même que cet accord de 600 pages, 550 de ces pages, elles ont déjà été lues plusieurs fois par les députés, puisqu'ils les ont refusées par trois fois à Theresa May. Il y a des changements, on peut comparer les deux textes, et ça fait tout de même moins de choses à aller voir. Donc, il y a aussi un jeu politique évident.
Pour embêter Boris Johnson un peu
C'est un des anciens conservateurs qui ont quitté le Parti conservateur, tellement ils étaient mécontents, qu'ils ont traversé la Chambre des communes pour aller se poser du côté des libéraux-démocrates, uniquement pour prouver qu'ils n'étaient pas en accord avec leur Premier ministre, ce qui est tout de même assez rare. Il y a un aspect tactique qu'il ne faut tout de même pas nier. Techniquement, ce n'est pas infaisable, effectivement, mais l'autre obligation qui est faite à Boris Johnson, c'est de demander, et c'est celle sur laquelle il va se cristalliser, parce que c'est vraiment une question de « je suis l'homme qui ne recule jamais », consistait à envoyer ce soir même, avant 11h du soir, une lettre à l'Union européenne, à la Commission, en disant « nous demandons un report de 3 mois », le fameux report jusqu'à la fin janvier 2020. Et comme Boris Johnson a passé son temps à dire qu'il n'allait pas demander cet accord. Il dit, moi, je veux, préfère me mettre
en
infraction, mais nous ne le serons pas, puisque dès lundi, nous allons commencer à travailler sur ce vote et on va reposer les choses au vote mardi.
D'accord.
Techniquement, c'est faisable, mais c'est compliqué.
Marion Van Rentergam, on s'aperçoit qu'il y a des tactiques politiciennes. On doit revoter mardi, alors on sera le 21, pour une sortie le 31, 10 jours après. C'est incroyable de se dire qu'on va voter le 22, voilà, pour une sortie le 31, qu'on joue l'avenir d'une nation qui n'est pas rien, l'avenir des Royaume-Uni, comme ça, la roulette russe, sur un billard à 8 bandes, en se disant, tiens, où va aller la balle au 9e coup. C'est un peu l'impression que ça donne.
C'est comme ça depuis le début de cette histoire folle. Ce qui est assez rassurant, je trouve, aujourd'hui, c'est que le Parlement a montré qu'il y avait une limite au mensonge. Le mensonge a bonne presse et marche plutôt bien dans la politique aujourd'hui. Boris Johnson l'a poussé à un point inégalé, je pense, dans l'histoire de tout Premier ministre et de tout dirigeant. Il n'a cessé de mentir pendant la campagne du référendum. Mais quand je dis mentir, ce n'est pas faire des petites fausses promesses comme le font les dirigeants d'une manière générale. Il a fait des mensonges énormes et assumés, stratégiquement assumés. Donc il a menti pendant le référendum, il a même menti à la reine. Ouais. Et son ultime mensonge, c'était de promettre, de garantir une sortie le 31 octobre, sachant que vous dites que techniquement c'était possible, c'était en tout cas très juste. Beaucoup disaient que c'était impossible parce qu'il fallait en effet que les députés examinent en profondeur ce nouvel accord. Il fallait ensuite qu'il soit transcrit dans la loi britannique. Tout le monde dit qu'il fallait au minimum, pour Theresa May, l'accord Theresa May, ça avait pris plusieurs mois avant d'en arriver à cette étape. Donc c'était techniquement impossible et ce n'est pas le moindre des mensonges de Boris Johnson de s'être accroché et d'avoir promis à tout le monde.
Alors
que
vous êtes en train de me dire que la date du 31, on oublie.
De toute façon, depuis le début,
je l'ai
tweeté, vous pouvez regarder mes tweets, j'ai dit, il y a une chose certaine depuis le début, c'est que le 31 octobre, il n'y aura pas de Brexit. Et je voyais tous les sur les réseaux sociaux, l'extrême droite et l'extrême gauche qui s'excitaient en disant, voilà, Boris Johnson, c'est la victoire de Boris Johnson, ça n'est la victoire en rien de Boris Johnson.
Oui, mais Boris Johnson, il le dit, moi je vais sortir le 31 et arrêter avec vos pinailleries, et peut-être que là où il y a une volonté, il y a un chemin, vous savez, c'est cette fameuse phrase. Ouais, écoutez, il arrivera peut-être à l'obtenir, cette sortie.
Il est obligé d'envoyer cette lettre s'il ne veut pas se retrouver devant les tribunaux.
D'envoyer cette lettre, oui, alors il a dit qu'il enverrait une lettre pour demander le report, mais le surlendemain, il enverra une autre lettre pour demander de ne pas obéir à cette première lettre.
Écoutez, il peut jouer des jeux comme il veut, mais sachant, moi je suis complètement d'accord avec Marion, c'est que, sachant que, par exemple, la traité de Maastricht, la traité de Lisbonne, ça a pris 40-50 jours à débattre dans la Chambre des communes, il y avait au moins 120 votes.
D'accord.
On voit difficilement comment... on examine en chaque page, chaque clause, les députés seront capables de faire passer tout ça avant le 31 octobre.
Ça devient inextricable quand même, ça devient compliqué à suivre. Anne-Elisabeth Moutet, l'anglais de la rue d'ailleurs, est-ce qu'il suit ou est-ce qu'il commence à ne plus... Il paraît qu'il y a une chaîne anglaise qui maintenant promet de ne plus parler du Brexit parce qu'elle s'aperçoit que ses téléspectateurs n'en peuvent plus de ce Brexit.
Ça, je crois que c'est de 18h à 23h. On vous jure qu'on ne parle pas du Brexit.
Voilà où on en est.
C'est un argument de vente. Mais...
fatigue.
L'électeur anglais est d'autant plus mal à l'aise que, comme disait Marion, pendant la campagne électorale, il y a une expression britannique merveilleuse qui s'appelle « on a été économe avec la vérité ». Et effectivement, parmi les promesses, c'est « nous allons recevoir chaque semaine de l'Europe 300 millions de livres qu'on donnera à la Sécurité sociale, au NHS ». Évidemment, ce n'était pas vrai. Mais néanmoins, les électeurs, en revanche, savent ce qu'ils ont voté. Et ils savent aussi qu'on leur a dit, en gros, vous avez voté, vous avez eu tort, vous allez revoter jusqu'à ce qu'on soit content. En tous les cas, ça, c'est la vision des gens qui ont voté non. Les gens qui ont voté non au référendum initial, c'est-à-dire au référendum, c'est non, on veut pas, nous voulons sortir de l'Europe.
Le référendum était compliqué, à vous entendre.
Le référendum était compliqué. C'était pas oui ou non comme en France, c'était nous voulons rester ou nous voulons partir. Remain or leave. Ouais. Partir ou rester. Ceux qui ont voté partir et qui étaient 52%, disent, écoutez, il n'y a pas de démocratie. L'Europe, ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça, puisqu'en 2005, elle a dit, notamment à l'Irlande, que s'ils ne votaient pas la Constitution européenne, il fallait qu'elle la revote jusqu'à ce qu'elle vote dans le bon sens. C'est jamais une bonne impression à faire. Les choses sont devenues de plus en plus techniques, justement, parce qu'on a essayé d'embrouiller le débat dans des choses techniques. L'amendement Letwin, c'est un amendement intelligent, mais extrêmement technique. Donc les gens savent plus ce qui se passe. Il y a en ce moment des dizaines, peut-être des centaines de milliers de gens dans Londres qui demandent eux, oui. un autre référendum voilà. en ce moment, là, pendant ouais, qu'on parle.
Il y a une énorme manifestation aujourd'hui à Londres pour réclamer un deuxième référendum.
En disant, au point où on en est, on veut un, plus personne ne sait où on en est. Ce qu'on vous a promis il y a 3 ans ne correspond en rien à ce qui vient de vous arriver.
On efface tout et on recommence.
Oui. C'est donc la situation, une situation de confusion maximale.
Alors, ce devait être donc une session historique aujourd'hui au palais de Westminster, alors que dans les rues de Londres, on vient d'en parler, hein, des centaines de milliers de Britanniques réclament un deuxième référendum. Mais voilà, coup de théâtre, ce vote historique est reporté, donc probablement à mardi. Récit d'une folle journée, Barbara Steck avec Ilana Azinko.
Énième journée cruciale pour le Brexit. Depuis ce matin, tous les regards sont tournés vers le Parlement britannique. Les députés ont été convoqués pour la première fois un samedi depuis la guerre des Malouines, il y a 37 ans, pour voter le compromis de divorce avec Bruxelles, décroché par Boris Johnson cette semaine. À l'ouverture de cette séance exceptionnelle, le Premier ministre exhorte à voter son accord et met en garde contre un nouveau report qui serait inutile, coûteux et destructeur, selon lui.
Toute cette expérience depuis 3 ans et demi a été si difficile pour le pays et nous a divisés. Maintenant, il est urgent pour nous d'aller de l'avant et de bâtir une nouvelle relation avec nos amis européens sur les bases d'un nouveau deal.
D'après le décompte de la BBC, 310 députés seraient prêts à voter l'accord. Pas assez, car 320 voix sont nécessaires pour adopter le texte. Le vote s'annonce serré. À la tribune, les prises de parole s'enchaînent. Pour le chef de l'opposition, le travailliste Jeremy Corbyn, cet accord fragilise le droit des travailleurs.
Il a renégocié l'accord de retrait et l'a rendu encore pire. Il a renégocié la déclaration politique et l'a rendu encore pire.
Le parti unioniste nord-irlandais, pourtant allié des conservateurs, emmené par Boris Johnson au Parlement, s'oppose également à ce deal pour des questions douanières. À l'extérieur de Westminster, les drapeaux européens inondent les rues de Londres. Plusieurs dizaines de milliers de Britanniques manifestent contre le Brexit. Ils n'acceptent pas de quitter l'Union européenne, ils demandent un nouveau référendum.
Nous avons des enfants, des petits-enfants. Nous voulons un avenir pour eux et il est en Europe.
Je suis un étudiant en politique. J'étais trop jeune pour voter. J'avais 17 ans lors du vote. J'ai 21 ans maintenant et j'étudie la politique et j'ai mon mot à dire. Je veux pouvoir m'exprimer à ce sujet.
Mrs. Theresa May. Au Parlement, Theresa May apporte son soutien à l'accord de Boris Johnson et ose une pointe d'humour.
J'espère que la Chambre me pardonnera si je dis que j'ai un certain sentiment de déjà-vu. Je l'ai déjà dit avant, je l'ai dit maintes fois, j'espère que c'est la dernière fois que j'ai à le dire. Si vous voulez éviter un no deal, vous devez voter pour un deal.
Mais un député, Oliver Letwin, va faire basculer la journée avec un amendement de dernière minute. Coup de théâtre, les députés se prononcent pour un report du vote. Ils veulent plus de temps pour débattre de l'accord dans ses détails. Un revers pour Boris Johnson, très en colère.
Je garde la conviction que la meilleure chose pour le Royaume-Uni et toute l'Europe est un Brexit avec ce nouveau deal le 31 octobre. Et pour anticiper vos questions, je ne vais pas négocier de report avec l'Union européenne. Et la loi ne m'y oblige pas. Je dirai à nos collègues de l'Union européenne ce que j'ai dit depuis le début de mon mandat il y a 88 jours. Un délai supplémentaire serait mauvais pour ce pays, mauvais pour l'Union européenne et mauvais pour la démocratie.
Au même moment, des applaudissements retentissent devant le Parlement. La saga du Brexit se poursuit.
Alors, question téléspectateur, comment Bojo, donc Boris Johnson, prend-il la nouvelle, Patrick Martin-Genier? Parce que l'attaque vient de son camp. Hein. Ce ne sont plus les méchants européens qui font trébucher le Brexit. Hein. L'attaque, l'amendement Letwin, c'est un conservateur.
Un conservateur qui avait été exclu du Parti conservateur, mais il a reçu le soutien capital, crucial, des unionistes nord-irlandais qui se sont trahis dans cette affaire. Et par conséquent, les 10 députés unionistes.
On reviendra sur le cas d'Irlande parce que c'est passionnant.
Plus 6 députés mais de son propre
sur
camp.
Sur Boris Johnson, donc.
Et Boris Johnson, donc il le prend naturellement très mal parce qu'il pensait que, ayant obtenu un accord, d'ailleurs, on a vu qu'il était très entouré à Bruxelles, et il vient de dire qu'il ne solliciterait pas un report, alors que par la loi, il y est obligé, et ça veut dire que s'il ne le fait pas, ça va se terminer devant la Cour suprême britannique, même devant la Cour d'Écosse dès lundi, parce qu'il y a une instance devant la Cour d'Écosse qui vise à enjoindre au gouvernement eh bien, de solliciter un report de ce délai. Et s'il y a un appel, ça va se terminer devant la Cour suprême, comme lorsque il avait dissous, il avait renvoyé le Parlement, il avait ajourné le Parlement, c'était absolument illégal, ça s'est terminé devant la Cour suprême qui lui a intimé l'ordre de réunir de nouveau le Parlement. Donc il sera obligé de le faire parce que s'il ne le fait pas, c'est un acte de trahison en quelque sorte, un acte de mépris. On pourrait utiliser le terme de forfaiture qui avait été utilisé par Gaston Monnerville en 1969,
ça
ne respecterait pas la loi, et ce qui veut dire qu'il serait obligé de solliciter ce report même s'il ne le souhaite pas.
Anne-Elisabeth Moutet, donc on a un Boris Johnson peut-être en difficulté, mais qui est très populaire, qui est populaire dans son pays. Point d'interrogation. Je vous dis ça. Emmanuel Macron donc dit de Boris Johnson, il est parfois un peu pittoresque, mais ceux qui ne l'ont pas pris au sérieux ont eu tort.
C'est intéressant, mais c'est vrai, dans ce cas spécifique, je dirais que l'alliance entre Boris Johnson et son conseiller politique a fait une vraie stratégie, y compris ce délai pour qu'on fasse les choses à la 23e heure, littéralement, enfin juste avant pour essayer de passer en force. Et d'autre part, quel que soit le discours qu'il prononce devant l'Assemblée, quel que soit l'endroit, l'écran où on le voit, il est en train de parler à deux publics à la fois. Il parle d'une part aux députés, d'autre part, il parle à la nation tout entière en disant, regardez, je fais tout ce qu'il faut pour que votre volonté démocratique soit accomplie et on me met des bâtons dans les roues. Donc même si légalement, il est obligé de faire, par exemple, d'envoyer ce qu'il a dit qu'il ne ferait jamais. Il est en train de créer une espèce d'appel d'air populiste qui consiste à dire vous êtes trahis par les gens qui sont assis sur les bancs du Parlement, ce qui n'est pas neutre. Enfin.
John Henley, s'il dissout et que demain il se présente pour les élections, il gagne, Boris Johnson ?
Il gagne. Selon les sondages, il a entre 12 et 15 points d'avance. Donc oui, lui, ce qu'il veut, en fait, c'est des élections. Je suis complètement d'accord avec Anne-Elisabeth. Lui, il veut vouloir se présenter comme l'homme qui a tout essayé et qui a été empêché de mettre en œuvre la volonté du peuple.
Par les parlementaires.
Par les parlementaires, par les juges, par les remainers de toute poil. Ouais.
C'est Gulliver entravé, c'est une vision littéraire britannique, et il est entravé par les Lilliputiens. Vous avez cette espèce de géant qu'on colle au sol mais qui essaye de se défendre. Tout le monde n'a pas ça dans la tête, mais pas mal de gens l'ont en Angleterre.
Question téléspectateur, l'Europe ne se ridiculiserait-elle pas en acceptant un nouveau report du Brexit? C'est l'une des hypothèses. Alors Marion Van Rottergem, on a un peu deux camps en Europe, on a l'impression. On a le méchant Macron qui dit pas de report, ça sera la sortie sans accord. Et Angela Merkel qui a l'air beaucoup plus conciliante et dire, bah, écoutez, on fera ce qui vous arrange, messieurs les Anglais.
À vrai dire, je pense que c'est une fracture artificielle entre deux. C'est une question de ton. C'est vrai que je pense que Macron est davantage exaspéré par la longévité de la chose qu'Angela Merkel. Les Allemands ont aussi plus intérêt, étant un marché d'exportation, à ce que la Grande-Bretagne ne parte pas. Mais à vrai dire, l'Union a quand même, il ne faut pas essayer de désunir l'Union européenne qui a fait preuve de grande solidarité et d'union jusqu'à présent, y compris avec l'Europe, avec l'Irlande, avec son partenaire, l'Irlande. Je voudrais quand même revenir sur cette stratégie. La phrase de Macron sur la stratégie de Boris Johnson, ça dépend laquelle, parce qu'en effet la dernière est une stratégie éminemment populiste d'ailleurs, de diviser, d'essayer de monter le peuple contre le Parlement, sachant que ce qui est un peu curieux pour quelqu'un qui dit respecter the will of the people, la volonté du peuple, il redoute un deuxième référendum qui serait l'expression de la volonté du peuple sur un deal dont on a maintenant, qu'on pourrait examiner en connaissance de cause. Mais quelle est la stratégie de Boris Johnson? Moi je l'avais rencontré en 2013, il s'était fichu de moi quand je lui avais posé la question, est-ce que vous voulez sortir de l'Union européenne? Il m'avait dit, on n'est pas assez débile pour vouloir sortir de l'Union européenne, on doit y rester. Et la bonne raison d'y rester, c'est qu'on veut être dans le marché unique pour vous empêcher de faire des bêtises. Ensuite, il avait prévu deux éditoriaux, donc avant la campagne du référendum,
ça,
un pour,
dit,
un contre, voilà. Il a dit que jamais qu'on pouvait se passer d'un deal et que c'était, on pouvait très bien aller à un no deal, on voit qu'il se bat pour avoir un accord. Il a dit que jamais, au grand jamais, il s'était indigné à la convention des conservateurs contre Theresa May qui dessinait une frontière entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Il a dit jamais un Premier ministre ne pourrait accepter une telle chose. Mm-hmm. Il a dit tout et son contraire. Donc, quelle est la stratégie de Boris Johnson? Sinon, une manière un peu habile, parce qu'il y a deux caractéristiques de Johnson, c'est que c'est un gros menteur et que c'est un très intelligent. Donc, les deux ensemble fait une espèce de chat qui se retourne sur lui-même et fait des espèces de pirouettes en permanence.
Il n'empêche.
Mais ce n'est pas une stratégie, c'est une infinité de tactiques successives.
On critique Boris Johnson beaucoup ici. Mais donc en Grande-Bretagne, on l'a dit, hein, personnalité préférée des Britanniques. S'il devait se présenter à des élections, il les gagnerait. Pendant ce temps-là, dans les rues de Londres, on a des centaines de milliers de manifestants qui défilent un peu contre Boris Johnson, puisqu'ils veulent rester dans l'Union. Ça veut dire que ce Brexit marque la frontière quoi, entre les urbains qui seraient européens et l'Angleterre profonde qui est pour sortir et qui est pro-Boris Johnson, c'est un peu ça la ligne
c'est
de fracture.
Pas un peu, encore une fois, le Brexit, c'est une question qui divise dans tellement de sens différents. Hein. Ça divise les partis politiques entre eux, hein. Ça divise les familles, hein. Ça divise les régions. Ce n'est pas aussi simple que urbain, rural ou gauche, droite, même libéral, tout ce que vous voulez. C'est quelque chose que les Britanniques vivent vraiment de façon extrêmement personnelle, qu'ils prennent au cœur. Et c'est quelque chose qui dépend beaucoup plus du cœur que de la tête, en fait.
Oui, Martin Denier.
Il faut mettre un petit bémol à cette vision, parce que je lisais, parmi ceux qui manifestent aujourd'hui dans la rue, ils sont pratiquement 1 million. 1 million de personnes dans les rues de Londres.
Ce qui est rare en Grande-Bretagne.
Ce qui est très rare, enfin bon, on l'a déjà vu, mais c'est une marée humaine. 170 bus, plus de 170 bus. Il y a même des gens du spectacle, du journalisme qui ont payé.
Toujours des gens du spectacle. Hein.
Pour, effectivement, non, mais ça montre moins où on en est. Et il y a beaucoup de personnes, notamment des personnes qui sont issues des régions minières, qui avaient voté pour le Brexit et qui réalisent aujourd'hui qu'on leur a menti. On leur a menti sur la portée du Brexit, on leur a menti sur leur emploi, parce que leur emploi ne sera pas sauvé. Il y a des milliers d'emplois qui sont en jeu. Et aujourd'hui, des gens qui avaient voté pour le Brexit réalisent, en effet, même des gens issus des milieux ouvriers de l'Angleterre profonde, qu'en réalité, ça a été une vaste fumisterie, si vous me passez l'expression.
Anne-Elisabeth Moutet, si on devait revoter demain, si effectivement on devait réorganiser un référendum comme le demandent les manifestants aujourd'hui à Londres, on a une idée d'ailleurs de ce que serait le
résultat ? On ne sait pas. On ne sait pas, parce que je suis tout à fait d'accord avec John pour dire que c'est vraiment très complexe la façon dont ça a redivisé le pays. Il y a même des gens qui ont voté « je restais » et qui maintenant veulent voter partir. Donc c'est moins clair qu'on ne croit, c'est pas aussi générationnel qu'on le pense. Et il faut bien se rendre compte aussi, oui, il y a des gens qui sont venus de bassins ouvriers, de bassins miniers, qui ont dit c'est nos emplois, mais eux aussi ils sont en train de se battre pour une élection législative qui va arriver. Et ça, ce sont les troupes du Labour qui, de toute façon, Jeremy Corbyn, dans son fort intérieur, il est pour le Brexit.
Leader travailliste.
Le leader, il est en réalité, non seulement il est pour le Brexit, mais il n'a participé à aucun des meetings communs avec David Cameron lors du référendum parce qu'il ne voulait pas apporter son appui à la position anti-Brexit du Premier ministre. D'accord. Puisqu'il était dans l'autre
camp. C'est compliqué à l'intérieur de tous
et
les partis également.
Et vous avez des gens qui sont là pour dire nous sommes là pour gagner les élections au coup d'après.
John Henley, on parlait de la fatigue des Britanniques qui ne veulent plus, dont beaucoup disent ne plus vouloir entendre parler du Brexit. Est-ce qu'il y a aussi une crispation et il y a une certaine violence qui fait que le Brexit deviendrait presque parfois un sujet tabou dans les pubs ou au sein des déjeuners familiaux.
Il y a des pubs, il y a des restaurants à Londres qui maintenant, j'imagine ailleurs en Angleterre, où il y a une affiche sur la porte que pas de Brexit, on ne parle pas Brexit ici.
C'est vrai ?
Oui, complètement. Les gens sont énervés, ils sont épuisés. Il faut imaginer, c'est combien, 3 ans et demi qu'on parle de ce sujet. C'est difficile d'exagérer à quel point ça a divisé et polarisé le pays. Il y a des familles qui ne se parlent plus. Hein. Il y a des couples qui se sont séparés à cause du Brexit.
Le pays est fracturé, il va falloir le reconstruire.
Véritablement fracturé. Et on voit difficilement comment on pourrait le reconstruire.
Est-ce que la reine qui doit lire des discours de Boris Johnson se sent instrumentalisée, ou est-ce qu'en tous les cas les Britanniques ont l'impression qu'on instrumentalise la reine Elisabeth II dans cette affaire?
C'est son rôle constitutionnel. Elle a eu toutes sortes de premiers ministres avec lesquels elle s'entendait plus ou moins bien et dont elle approuvait plus ou moins les idées. Parfois, d'ailleurs, ce n'était pas la même chose. Par exemple, tout le monde sait qu'elle était très amie avec Jim Callaghan, le premier ministre travailliste des années 70. Mais son rôle constitutionnel, au contraire, elle est c'est la dernière vision de stabilité dans le pays. Et la discussion que j'avais avec des amis anglais hier, c'était qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui se serait passé si tout ça s'était passé avec un roi Charles III, c'est-à-dire son fils. Et on pense que le pays se serait encore moins, aurait encore moins bien pris ça, parce qu'on n'avait pas cette espèce d'image immanente et claire qui est celle d'un monarque que personne ne conteste, même les pro-républicains. Elle a fait son devoir depuis 67 ans, ils sont contents.
À l'heure où l'on parle, et on va en parler là, d'indépendance de l'Écosse, de l'Irlande, de réunification irlandaise, est-ce qu'on peut dire que la reine est le dernier ciment du Royaume-Uni et que si elle n'était pas là, les forces centripètes seraient à l'œuvre dans ce pays? Alors, un peu de fiction. John Henley.
Écoutez,
à quel âge la reine d'abord, hein,
elle est très âgée.
Très âgée, voilà. 95 ans.
Ce ne sera pas éternel.
Écoutez, elle a un certain rôle constitutionnel. Elle refuse d'être impliquée dans la politique interne. C'est pour ça qu'elle était tellement énervée quand David Cameron a publié son livre. Il a raconté un petit peu comment elle a réagi à certains événements. La reine n'est pas censée...
Parce que, rappelez-nous, tous les mardis, le Premier ministre vient rendre compte à la reine du monde des affaires.
Et c'est censé rester sous le plus grand secret imaginable. David Cameron l'a un petit peu trahi. Elle a été très énervée. On a entendu, je ne sais pas comment, mais elle était très énervée quand effectivement, ce n'était pas Boris Johnson, mais Jacob Rees-Mogg qui est allé demander le fameux ajournement du Parlement au mois de septembre. On lui a menti pour des vraies raisons. Cette suspension de Parlement. Je pense qu'elle doit sentir impliquée beaucoup plus qu'elle l'aimerait.
Elle est sûrement inquiète, non ?
Oui. Oui, je pense qu'elle est manifestement inquiète.
Patrick Martin-Genier. On est tous brouillés avec ce Brexit.
Hein. Je n'ai pas les cheveux blancs dans tous les sens. Non, je pense que ce qui est surréaliste, c'est le discours du trône qu'elle a fait lundi dernier, où elle a fait un discours... Oui, non, mais elle est dans son rôle constitutionnel. Mais je veux dire, on voit bien, vous avez utilisé le terme instrumentalisé. Oui, non. Boris Johnson, je pense, a instrumentalisé la reine. Elle a lu son discours, ce qui est son rôle constitutionnel, on est bien d'accord. Mais quand j'ai entendu la reine dire « Mon gouvernement va créer 20 000 policiers, mes ministres vont construire 40 hôpitaux », etc., c'était un discours électoral de Boris Johnson.
Mais c'est toujours le cas.
Et je pense en effet qu'elle représente aux yeux des Anglais quand même le ciment constitutionnel. Et évidemment, ces derniers temps, je pense qu'elle a été politiquement, même si elle respecte son rôle, instrumentalisée par Boris Johnson sur le Brexit. En effet, lorsque notamment on lui a demandé d'ajourner ce Parlement, eh bien, je pense qu'elle l'a regretté parce qu'elle savait très bien au fond
d'elle-même. C'est pour ça qu'à mon avis, elle n'est pas restée dans son rôle. En tant que gardienne de la Constitution, elle devrait mettre... Si elle n'était pas si âgée, à mon avis, elle aurait pu réagir avec un peu plus de fermeté devant le mensonge éhonté que lui a présenté le Premier ministre. Elle aurait pu rappeler la loi et la Constitution à ce moment-là. Elle ne l'a pas fait et je pense qu'elle a failli.
Alors, les 17 410 000 Britanniques qui avaient voté pour la sortie de leur pays de l'Union européenne en 2016 n'avaient sûrement pas imaginé que cela prendrait autant de temps à se mettre en place. Retour sur ce feuilleton du Brexit qui a profondément divisé la classe politique britannique avec Julien Launay et Erwan Illion.
Ce jour-là, de l'autre côté de la Manche, coup de tonnerre.
This means that the UK has voted to leave the European Union.
Juin 2016, lors d'un référendum, une majorité de la population, près de 52%, se prononce en faveur du Brexit. C'est la victoire de Boris Johnson et d'un camp prêt à tout pour obtenir ce résultat, jusqu'à faire de la désinformation. C'est aussi et surtout la défaite d'un homme, David Cameron,
qui en avait pourtant fait une promesse de campagne.
Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir comme Premier ministre pour maintenir le navire à flot au cours des semaines et mois prochains. Mais il ne serait pas juste que je sois le capitaine conduisant le pays vers sa prochaine destination.
Ce référendum va ébranler un continent et plonger le peuple britannique dans sa plus grande période d'incertitude depuis la Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'elle succède à David Cameron au 10 Downing Street, Theresa May ne montre aucun signe d'inquiétude, bien au contraire.
Je suis très claire, Brexit signifie Brexit, et comme cela a été dit, nous en ferons un succès.
Theresa May, deuxième femme à occuper la fonction après Margaret Thatcher, lance officiellement la procédure de divorce le 29 mars 2017. Pour parvenir au retrait, elle peut s'appuyer sur l'article 50 du traité de Lisbonne qui régit le fonctionnement de l'Union européenne.
Alors voilà, six pages dans lesquelles Theresa May explique qu'elle décide de déclencher l'article 50.
Commence alors le temps des négociations entre Londres et Bruxelles pendant 2 ans. Theresa May cherche d'abord à asseoir son autorité avec des législatives anticipées. Un revers cuisant, puisqu'elle perd la majorité absolue à la Chambre des communes. Fragilisée, alors que l'Union européenne n'a pas l'intention de lui faciliter la tâche. Le point le plus épineux à régler, c'est celui de la frontière irlandaise. Il faut attendre novembre 2018 pour trouver un terrain d'entente avec les 27.
Les choix face auxquels nous étions confrontés étaient difficiles, notamment en ce qui concerne le cas du backstop avec l'Irlande du Nord. Mais il a été décidé que le gouvernement approuverait ce projet d'accord de retrait.
Si son gouvernement approuve ce texte, reste encore à convaincre les parlementaires. Mission impossible pour Theresa May, qui va échouer à plusieurs reprises, première fois le 15 janvier.
The eyes to the right, 202. The nose to the left, 432. So the nose have it. The nose have it.
Thank you, Mr. Speaker.
Il est clair que le Parlement ne soutient pas ce projet d'accord, mais le vote de ce soir ne nous dit rien sur ce que le Parlement souhaite.
Les semaines passent et les déconvenues au palais de Westminster sont une souffrance pour Theresa May, au point d'en perdre la voix.
In UK and EU law.
Faute de compromis, comment imaginer que le Brexit ait lieu le 29 mars, date butoir? No deal ou report? L'Union européenne accepte de repousser l'échéance.
Ce soir, le Conseil européen a décidé d'accorder au Royaume-Uni un délai supplémentaire à celui prévu dans l'article 50, jusqu'au 31 octobre, ce qui veut dire 6 mois supplémentaires pour le Royaume-Uni.
Le feuilleton n'en finit pas, mais il perd son personnage principal, très ému, au moment d'annoncer sa démission.
Je partirai sans amertume, mais avec une énorme et infinie gratitude pour avoir eu l'opportunité de servir le pays que j'aime.
Au tour de Boris Johnson de mener à bien le processus de sortie de l'Union européenne. Depuis sa nomination cet été au 10 Downing Street, il affiche sa détermination. Pour lui, le Brexit doit absolument devenir une réalité après le 31 octobre.
Il n'avait qu'à pas hésiter.
John Henley, ce qui a tout changé jeudi, et pourquoi il y a eu accord, c'est parce qu'on a réglé la question irlandaise. Est-ce que cet accord que vous allez décrire, est-ce que jeudi on n'a pas semé la graine de la réunification de l'Irlande? Puisque maintenant, si j'ai bien compris, dites-moi si j'ai tort, mais l'Irlande du Nord va devoir respecter les règles européennes.
Tout à fait.
Les règles d'ici, de la République.
Tout à fait. Écoutez, c'est extrêmement compliqué, cette solution qui a été trouvée. Mais en gros, l'effet sera que l'Irlande du Nord va rester, plus ou moins, dans l'union douanière européenne et dans le marché unique. Que Boris Johnson le veuille ou non, il y aura une frontière entre l'île de l'Irlande et la Grande-Bretagne. Donc, dans
l'Irlande du Nord se détache du Royaume-Uni.
Absolument. Et c'est pour ça que les unionistes de l'Irlande du Nord sont tellement opposés. Parce qu'ils voient c'est très facile de voir ce qui va arriver à terme. Avec le temps, c'est presque inévitable, je pense, l'Irlande du Nord s'attachera de plus en plus à l'Irlande et à l'Union européenne. La gravité tend dans ce sens-là, c'est inévitable.
Marion Van Rentenguay, la réunification de l'Irlande est en marche, on peut le dire, depuis jeudi?
Elle est en marche, mais la paix n'est pas résolue, parce que justement, comme dit John, avec cette espèce de subterfuge incroyablement complexe, finalement, en évitant de faire une frontière physique entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, Boris Johnson a choisi une sorte de frontière entre la Grande-Bretagne, dans la mer, et l'Irlande du Nord, ce qui évidemment fâche les unionistes, et ce qui recrée des tensions entre les unionistes et le reste de l'Irlande. Il faut vraiment se souvenir que l'accord du Vendredi Saint de 1998 avait été rendu possible parce que l'Union européenne existait, parce que grâce à l'Union européenne, les trois entités qui sont la République d'Irlande, l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne existaient tout d'un coup dans une même entité commune. Et du coup, appartenaient à une même identité. C'est ça qui est remis en cause, et même avec cette frontière, même si en effet l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, pour simplifier, sont de nouveau intégrées dans un même marché douanier, il reste qu'il y a ce problème de l'Irlande du Nord. Plus s'ajoute à ça l'Écosse, qui se dit, et pourquoi l'Irlande du Nord aurait un statut différent, voilà, un statut privilégié? Pourquoi nous, on a toujours voté contre le Brexit en majorité, comme les Nord-Irlandais d'ailleurs, en dehors de cette petite minorité du DUP? Pourquoi est-ce que nous, on serait maltraités alors qu'on veut rester dans le marché européen? Donc, à mon avis, qu'est-ce qu'on gagne avec le Brexit, qui est une no solution depuis le départ? C'est inextricable. Donc, qu'est-ce qu'on gagne? C'est le Royaume des Unis, avec de nouveau, en effet, une Irlande qui se réunit, une Écosse qui va réclamer son indépendance. Nicola Sturgeon, de la Première ministre, l'a rappelé encore, il y aura un référendum avant 2022-2021. Donc, à mon avis, on va arriver à l'Angleterre et au pays. Le Brexit, ça aboutira à la victoire de l'Angleterre et du Pays de Galles, indépendantes, et ils auront bon dos.
Anne-Elisabeth Moutet, oui, c'est incroyable. Les Écossais, du coup, sont jaloux. Ils disent, mais nous aussi, on veut être traités comme les Irlandais du Nord. On veut s'échapper du giron de Londres.
Alors, c'est pas tout d'un coup. C'est, depuis le départ, ils ont...
Oui, non, mais c'est jeudi qu'a été révélé cet accord.
Sur le dernier accord, oui. Alors, je voudrais quand même rappeler qu'il y a deux manières de regarder cette solution qui a été trouvée pour laisser l'Irlande du Nord essentiellement dans l'Union douanière européenne. Et un autre point de vue, ça consiste à dire l'Irlande du Nord va pouvoir représenter pour la Grande-Bretagne un point d'entrée important et un certain nombre d'entreprises qui vont pouvoir s'installer et des tas d'institutions qui pourront s'installer à Belfast, ce qui sera bon pour Belfast, justement parce qu'elles seront à l'intérieur de l'Union douanière.
Un énorme argument contre le Brexit. C'est ça ce que je ne comprends pas. Comment on peut dire que l'Irlande du Nord va devenir extrêmement attractif pour les entreprises? Si c'est exactement ça, c'est le cas.
Parce qu'elle va rester dans l'Union européenne.
Parce qu'elle aura aussi une ouverture avec la Grande-Bretagne par définition. Alors, c'est pas de moi, c'était un argument intéressant tout de même à donner. Ça ne marche certainement pas avec les Écossais pour toutes sortes de raisons. Et d'abord parce qu'eux, ils étaient contre le Brexit dès le départ.
Alors, question téléspectateurs. Après 46 ans de vie commune, on le voit, il n'est pas facile de divorcer. Patrick Martin-Genier, pour reprendre cette image du divorce, quand on divorce, on est deux à divorcer. Est-ce que si les Anglais s'en vont, est-ce qu'on ne peut pas se faire un petit peu un travail d'introspection et se dire que l'Union européenne n'est peut-être pas très attirante en ce moment et que c'est un club qu'on peut avoir volontiers envie de quitter?
Oui, c'est vrai. Avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, avec le Brexit, il faut absolument qu'on se repose des questions pour savoir pourquoi sommes-nous ensemble? Quelle est la signification de l'Union européenne? C'est ça, au final. Les Anglais, depuis 1973, ont passé leur temps à vouloir renégocier leur participation à l'Union européenne. Et vous disiez très bien, nous voulons rester dans l'Union européenne, c'est ce que disait Boris, pour essayer de vous empêcher, en gros, d'aller plus avant. Et ce matin, dans son discours populiste, Boris Johnson a dit que les Anglais s'étaient toujours opposés à plus d'intégration politique. Donc je crois que le départ du Royaume-Uni, même s'il ne se passe pas très bien, doit être pour nous la possibilité de réfléchir sur ce que nous faisons ensemble et si on doit aller plus loin sur la voie de la construction européenne. C'est ce que disait Emmanuel Macron au Conseil européen. Il a dit qu'il faut qu'on solde cette histoire du Brexit pour effectivement réfléchir à l'étape suivante de l'intégration européenne, de la construction européenne, car c'est parti dans tous les sens. Il y a les pays du groupe de Visegrad qui n'ont pas les mêmes valeurs que l'Union européenne. Il y a le Brexit qui veut partir. On a eu l'Italie de Salvini. Et donc aujourd'hui, on ne sait plus où on va. Et vous remarquerez que depuis le traité de Lisbonne, nous n'avons plus de réflexion sur la portée politique, la philosophie politique de l'Europe.
Et c'est vrai qu'on ne cesse de se quereller dans cette Union européenne. Alors le dernier sujet qui a été l'objet d'une querelle, c'était hier, l'élargissement de l'Union européenne à l'Albanie et à la Macédoine du Nord. Alors Angela Merkel est pour, Emmanuel Macron est contre, et ils étalent leur... leur division largement...
Comme toujours, les marchands, c'était comme Tony Blair qui était pour l'élargissement, c'est les pays de marchands qui veulent un marché de plus en plus, plus en plus large. Je pense que Macron n'a pas tout à fait tort, dans la mesure où l'Union européenne est dans l'état où elle est, c'est-à-dire un peu incertaine, et de ne pas commencer à entamer des processus d'élargissement alors qu'on a un peu du mal à déjà à vivre ensemble. Mais en revanche, pour reprendre ce que vous disiez, je pense qu'on peut retourner l'affaire du Brexit, qui est au contraire une sorte de... qui a réveillé le reste des peuples européens. Plus personne ne veut sortir de l'Union européenne. Marine Le Pen, chez nous, a changé à 180 degrés sa politique. On n'entend plus parler de la sorte. Même Salvini a dit qu'il ne voulait plus sortir de l'euro. Plus personne ne veut sortir de l'Union européenne. Et je pense qu'en fait, paradoxalement, cette affaire de 3 ans et demi où les Britanniques n'arrivent pas à sortir prouve à contrario que si c'était si facile, ils seraient déjà sortis. Si c'est difficile, c'est parce que rien n'est mieux, aucun accord n'est meilleur que celui qui existe déjà, qui fait que nous sommes un grand marché de 500 millions d'habitants, et que si Trump, par exemple, est si avide d'avoir le Brexit, c'est parce qu'il sait qu'il aura les Britanniques à sa botte, qu'il pourra leur imposer ses conditions, ses poulets au chlore et ses bœufs aux hormones, sans que les autres puissent moufter, alors qu'un marché de 500 millions d'habitants, c'est un petit peu plus compliqué de s'opposer à lui.
Quelle perspective pour la Grande-Bretagne en dehors de l'Union européenne ? Il y a deux hypothèses ou deux scénarios, comme on dit, qui circulent. Le premier, c'est de dire la Grande-Bretagne sera une colonie des États-Unis, et l'autre, de dire pas du tout, la Grande-Bretagne sera Singapour sur Tamise, sera un paradis fiscal versus un enfer bureaucratique bruxellois sur le continent. Que vous inspirent ces deux façons de voir l'avenir du Royaume-Uni, Anne-Elisabeth Moutet ?
Je pense que les deux sont extraordinairement caricaturales, parce qu'il y a le poids de la réalité, et le poids de la réalité, c'est que la Grande-Bretagne est une des composantes du marché européen, que ce soit dans l'Union ou hors l'Union européenne, que c'est, je crois, notre premier partenaire, et certainement c'est le pays avec lequel, par exemple, la France a un excédent commercial important, que si Mme Merkel est tellement préoccupée du Brexit, c'est que son industrie automobile vend des voitures en Grande-Bretagne. Et donc, le poids de la réalité, le fait que ce soit tout près, etc., ça nous amène tout simplement à penser que c'est un partenaire commercial qui va rester dans ces domaines. Alors, les relations avec les États-Unis, ça change de président tous les 8 ans au pire. L'idée qu'on puisse avoir un caniche aux ordres, c'est gentil, ça fait plaisir, mais ça, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, on a déjà vu que quand Obama était venu au début de l'histoire du Brexit, il était venu en visite d'État en Grande-Bretagne, et il avait dit, écoutez, si vous voulez négocier des choses et que vous êtes tout seul par rapport à l'Europe, vous irez en bout de queue. Et il n'avait pas dit ça par hasard, quelqu'un lui avait préparé ses déclarations, parce que aller en bout de queue, c'est une expression totalement britannique, les Britanniques font la queue très poliment, les autres nations moins, et c'était vraiment quelque chose qui avait été inséré pour être bien compris. On sait très bien que sur Trump, on peut compter sur rien, parce que Trump a dit que le Brexit, c'était formidable, il est capable de laisser tomber n'importe quel allié, de façon tragicomique ou de façon franchement tragique, comme on l'a vu avec les Kurdes depuis une semaine. Et donc, l'existence de la Grande-Bretagne en tant que place financière de liberté de commerce, etc., elle l'avait aussi dans une certaine mesure à l'intérieur de l'Europe. Et je dirais même que si elle adopte comme législation fiscale la législation fiscale des entreprises de l'Irlande du Sud, c'est-à-dire d'un membre de l'Union européenne, ça sera Singapour sans avoir besoin de changer de système.
Donc je pense que c'est caricatural. C'est ce que nous vend Boris Johnson. Il veut faire de Londres Singapour sur Tamise.
Reste qu'il n'y a aucun économiste sérieux aujourd'hui qui trouve que la valeur des accords de libre-échange que le gouvernement veut signer avec d'autres pays tiers va compenser les pertes engendrées par le Brexit. Le gouvernement, les chiffres du gouvernement même estiment que cet accord de Boris Johnson va entraîner une chute d'environ 6%. Du PIB britannique.
Ça fait 3 ans qu'on nous prédit une catastrophe économique au Royaume-Uni qui n'arrive toujours pas.
Parce que le Brexit n'a pas eu lieu. Il n'y a pas eu Brexit.
Mais à la prochaine fois, on trouvera une autre excuse.
Je suis d'accord avec vous. Il y a un point très important politique, là, absolument.
On ne croit plus à la parole publique qui est un peu démonétisée sur ces questions-là.
Complètement. Le Project Fear, comme le projet de la peur, comme le nomment les Brexiteurs, ça n'a pas marché du tout. Le public n'y croit plus, mais reste qu'il n'y a plus aucun économiste sérieux qui voit les choses autrement. Oui.
Alors, Patrick Martin-Genier.
Oui, ce que je veux dire, c'est que, effectivement, vous dites démonétiser la parole publique de Boris Johnson. Il a dit des choses qui sont complètement contraires à ce qu'il fait depuis des années avec Theresa May et d'autres de gestion conservatrice. Il y a de plus en plus de pauvreté au Royaume-Uni. Il y en a ailleurs, hein, mais il y a de plus en plus d'enfants et de familles qui sont dans la rue, qui ne peuvent plus se loger. Et il est en train de nous dire, vous allez voir, quand on va sortir, ça va être formidable, ça va être Alice au Pays des Merveilles. On va renforcer la protection sociale. Alors que je vous rappellerai qu'il existe déjà à Londres et ailleurs des contrats zéro heure, c'est que vous pouvez être embauché sans travailler, sans être payé. Et donc, il y a effectivement un moins-disant social qui existe déjà. Lorsqu'il dit qu'il va renforcer la protection environnementale, c'est faux. La protection sociale, c'est faux, parce que s'il sort sans accord, eh bien, il y aura effectivement cette baisse de la protection. Il va vouloir renforcer l'attractivité du Royaume-Uni pour les entreprises. Ça va aller à la réduction des taxes, des impôts sur les sociétés. Et comme vous le dites, s'il y a une fiscalité de la République d'Irlande, ça lui suffira et il n'hésitera pas. Et donc, par conséquent, mais vous avez tout à fait raison de dire que, de toute façon, ça ne compensera pas les échanges commerciaux avec l'Union européenne.
Je suis tout à fait d'accord. Et c'est encore plus simple que ça. C'est que tout ce qu'a promis Boris Johnson et les Brexiteurs comme lui, c'est-à-dire, si on sort de l'Union européenne, c'est formidable, c'est le paradis, nous pourrons mettre fin à l'austérité.
Take back control.
Take back control. On voit comment il traite le Parlement quand il veut take back control. Et on mettra fin à l'austérité, on fera des investissements dans le NHS, le service de santé publique, dans l'éducation, etc. Et c'est extraordinaire parce qu'aucune de ces catégories ne relève de l'Union européenne. Ça ne relève que de la politique nationale. Donc, il n'a qu'à le faire. Ce n'est pas l'Union européenne qui l'en empêche. Et quant au modèle de Singapour, c'est totalement loufoque. Enfin, Singapour, en millions d'habitants, doit faire, je ne sais pas, le quart de la population de Londres. C'est une économie totalement dirigée. Donc, le contraire de ce qu'un libéral comme Johnson veut aboutir. Il n'y a pas de liberté du système bancaire ou de quoi que ce soit. Enfin, c'est le contraire de ce que les Britanniques veulent. On est dans le n'importe quoi depuis le début.
Alors, ce Brexit suscite beaucoup d'inquiétudes côté français également, en particulier du côté des entreprises qui commercent avec les Britanniques. Depuis des mois, elles vivent dans une incertitude qui les oblige à anticiper le pire des scénarios. Reportage en Bretagne de Myriam Zéhar et Clément Voyer.
Roscoff se tient fièrement face aux côtes anglaises, à seulement 200 km. La petite ville bretonne a toujours commercé avec son voisin british. Alors le Brexit, c'est un panier de crabes pour les professionnels. Comme Erwan Dussault, qui gère le plus grand vivier de France.
Bon, ça se passe bien ?
Ce jour-là, une cargaison vient juste d'être réceptionnée.
Donc ça, c'est des langoustes qu'on reçoit du Royaume-Uni.
Dans cet entrepôt, arrivent toutes les semaines plusieurs tonnes de crustacés, en provenance des eaux anglaises. Des crabes, des langoustes et des homards.
80% de nos homards proviennent des zones anglaises, anglaises et écossaises. Donc on importe 80% de nos homards du Royaume-Uni.
Avec le Brexit, cette marchandise haut de gamme pourrait être taxée.
Le prix va forcément augmenter et forcément on devra le répercuter envers nos clients, envers le consommateur aussi, puisque le homard sera forcément plus cher.
Et ce n'est pas sa seule crainte.
C'est le camion de Dartmouth qui est en train de débarquer.
Les camions qui transportent ces produits ne peuvent rester trop longtemps immobilisés à la douane. Une question de fraîcheur. Le Brexit et ses potentielles nouvelles formalités pourraient donc être fatales.
On est sur des produits nobles, on est sur des produits à forte valeur ajoutée. Une langouste qui meurt, c'est tout de suite de la perte nette. On ne peut pas la récupérer. Bon, ce qui nous inquiète le plus, c'est la pêche. Hein, ce sont les bateaux qui vont pêcher la marchandise, dans les zones anglaises particulièrement. Avec le Brexit, ils peuvent être chassés de ces zones et donc revenir dans les zones françaises.
Des inquiétudes et des questions nombreuses qui se posent également à quelques mètres de là. Sur la zone portuaire, où transitent des centaines de véhicules à chaque départ de ferry.
Hello.
Après le Brexit, la libre circulation des marchandises disparaîtra. La direction des douanes dit s'être préparée à ce grand bouleversement. Un système informatisé a même été créé, la frontière intelligente.
La frontière intelligente, ça permet
allant au transporteur, au moment où il va débarquer sur le territoire national, de savoir quel est le statut de sa marchandise. Et clairement, ça va permettre de libérer toutes les marchandises qui n'ont pas besoin d'un contrôle douanier, ni d'un contrôle sanitaire.
L'objectif des douaniers, éviter des files de camions, tout en continuant à effectuer des contrôles.
Je vais vous inviter à descendre du véhicule, s'il vous plaît, messieurs-là.
Mais à Roscoff, l'effet Brexit a déjà fait des dégâts. La Brittany Ferries a vu sa fréquentation baisser de 8% l'été dernier.
Puisqu'on est une entreprise française, mais qui vit grâce aux Britanniques, on a quand même eu un impact du Brexit immédiat post-référendum avec la baisse de la livre. Et surtout, en 2019, on a un impact sur notre activité, puisque là, pour le coup, en 2019, l'activité a commencé à baisser sérieusement.
Pour compenser les pertes, l'entreprise a ouvert une nouvelle ligne entre l'Irlande et l'Espagne.
Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce n'est pas avec l'Irlande qu'on compensera demain l'activité du Royaume-Uni, pour une simple et bonne raison, c'est qu'en Irlande, il y a 6 millions d'habitants, et qu'au Royaume-Uni, il y en a 65, donc le potentiel de trafic de et vers l'Irlande ne sera jamais que 10 fois inférieur à celui du Royaume-Uni.
La petite ville du Finistère n'en a pas terminé avec le feuilleton britannique.
Alors, John Henley, on a vu dans le reportage les pêcheurs français qui vont pêcher dans les eaux britanniques, parce qu'apparemment, c'est là où il y a les poissons. Mais c'est toute l'Europe même qui va pêcher dans vos eaux. Alors là, pour le coup, ça va cesser avec le Brexit.
Tout à fait, mais c'est aussi les pêcheurs britanniques qui vont pêcher dans les eaux européennes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est très compliqué l'industrie de la pêche. Mais il y a l'autre côté de la médaille, c'est que les poissons que pêchent les Britanniques, ce ne sont pas normalement, généralement, les poissons que mangent les Britanniques. Donc les pêcheurs britanniques, eux, ils ont besoin non seulement d'importer le poisson, ou l'industrie de la pêche britannique a besoin d'importer les poissons que mangent les Britanniques, mais ils ont aussi besoin, un énorme besoin, du marché européen pour vendre les poissons qu'ils pêchent. Donc, cela veut dire qu'il y aura, il va y avoir un accord. Ils vont devoir trouver un accord.
Oui, on réalise bien là-haut combien les économies sont imbriquées. Ce qui est intéressant, c'est qu'on rapporte qu'il y a déjà des incidents de pêcheurs français qui se retrouvent empêchés par des gardes-côtes ou par des pêcheurs britanniques d'aller dans les eaux britanniques. Ça veut dire que dans les têtes, ça y est, le Brexit est entré dans les têtes. Écoutez, ici, c'est la Grande-Bretagne, ce n'est pas la France. Vous reprenez votre bateau et vous rentrez en Bretagne. C'est un peu ce qui se passe, Anne-Elisabeth Moutet.
Alors, c'est parce que les questions de pêche sont des questions extrêmement difficiles, avec des batailles, parfois même des batailles de chalutiers depuis des années, et que le Brexit, c'est une raison de plus, même si la Grande-Bretagne est encore techniquement dans l'Union européenne, pour donner une raison pour les repousser. Donc, ça illustre quelque chose de plus large, qui est que l'Europe adoucissait un certain nombre de conflits parce qu'il y avait des structures pour les résoudre, et puis parce que malgré tout, on restait dans la même juridiction. Est-ce que là, on a déjà l'anticipation de ce qui peut se passer quand on n'a pas, j'allais dire, un filet de sécurité pour empêcher ce genre de bagarre ?
Donc l'Europe perd un partenaire commercial, elle perd aussi, et c'est très sérieux également, un partenaire militaire. La France a un grand partenaire militaire en Europe, c'est l'armée britannique.
Alors, c'est peut-être la petite exception au Brexit, c'est-à-dire que le Royaume-Uni est membre permanent du Conseil de sécurité, c'est une puissance nucléaire, et précisément, il y a une exception sur le thème de la défense. Ils ont toujours dit, par exemple, que s'ils quittaient l'Union européenne, ils ne quittaient pas l'Europe, et le Royaume-Uni restera un partenaire stratégique, privilégié de l'Europe, notamment en termes militaires, en termes de lutte contre le terrorisme, en termes d'information, et donc je crois que c'est une petite exception, c'est-à-dire, hormis l'aspect économique, sur l'aspect militaire et stratégique, le Royaume-Uni restera, même après le Brexit, un partenaire privilégié, même si, s'agissant d'Europol ou d'Eurojust, il y aura peut-être à la marge des traités ou des accords à renégocier pour que, précisément, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le Royaume-Uni continue à avoir accès aux informations européennes.
Anne-Elisabeth Moutet, la coopération militaire n'est pas abîmée par le Brexit ?
La coopération militaire en Europe, en réalité, si on veut être sérieux, c'est franco-britannique. Voilà, il y a deux armées d'une taille à peu près similaire. Ce sont toutes les deux des armées nucléaires. Elles ont toutes les deux un nombre à peu près équivalent de soldats déployés sur des théâtres étrangers qui, suivant les périodes, sont entre 15 et 20 000 et chacun dans des endroits différents, ce qui veut dire que si on a des accords communs, il y a des accords communs, des traités communs, on peut coordonner ça avec une certaine souplesse. Il y a eu le traité de Saint-Malo qui a été renforcé par le traité de Lancaster House. C'est quelque chose qu'on ne veut absolument pas abandonner. Alors on n'en est plus au point à un moment où on a rêvé, il y a 5 ou 6 ans, qu'il y ait un seul sous-marin nucléaire pour les forces armées françaises et britanniques. Ça, on se doutait bien que les Britanniques allaient finalement pas être d'accord, et en fin de parcours, ils sont en train d'en terminer un maintenant. Mais dans l'ensemble, la communication a toujours été, la communication entre les deux gouvernements et les deux armées a toujours existé, au moment les plus difficiles du Brexit, il y a toujours eu des déclarations de part et d'autre disant que c'était quelque chose qui restait comme ça. D'autant plus que, soyons parfaitement honnêtes, l'armée allemande ne veut pas se déployer pour des raisons historiques et pour des raisons de capacité, et les autres forces militaires entre les Polonais et les Italiens, qui sont des armées compétentes, n'ont pas la même capacité, force de frappe, etc.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Comment Boris Johnson a-t-il réagi à l'adoption de l'amendement Letwin ? Donc l'amendement Letwin, le nom de ce député, qui a obtenu qu'on repousse le vote, et c'est un député conservateur. Donc la trahison vient de son camp, hein, on l'a dit, John Henley.
Hein. Il était furieux et je pense que c'était tout à fait ça, on voyait ça sur son visage.
Il est mondialement connu maintenant, ce Letwin.
Il s'y était préparé. Hein. Ils étaient complètement furieux à 10 Downing Street hier soir quand ils ont appris que cet amendement allait être déposé. Une fois que ça a été effectivement choisi par le speaker John Bercow, et ils cherchaient désespérément des manœuvres parlementaires pour éviter les...
Alors, concrètement, on revote mardi, et donc il va y avoir la journée historique où on va dire il faut 300 voix et il n'en a que 288.
C'est très compliqué parce que justement cet amendement Letwin oblige un examen sur le fond. Et on ne peut pas avoir un examen sur le fond en dans une jours. Journée.
D'accord. Qu'y a-t-il dans l'accord négocié par Boris Johnson ? Est-il très différent du dernier accord obtenu par Theresa May, Anne-Elisabeth Moutet ?
Il n'est pas si différent que ça. Il y a la différence sur l'Irlande, et puis il y a
L'Irlande du Nord qui est rattachée à l'Irlande. En caricaturant.
Hein. En caricaturant en tous les cas, mais à 90%, c'est le même accord.
La loi oblige-t-elle... Merci d'avoir fait aussi court sur une question aussi compliquée.
C'était ça. Ou s'entraîner dans...
Ou alors on passait dans les 600 pages de l'accord.
Voilà, exactement. Et c'est tellement technique et je me suis dit qu'on aurait d'autres choses à dire.
Les commentateurs disent que 5% de l'accord Theresa May a été modifié.
Mais ils l'ont lu d'ailleurs, les 600... Est-ce que les députés britanniques ont lu les 600 pages de l'accord ?
Ils l'ont lu, mais ils l'ont pas débattu et ils n'ont pas voté. Ils n'ont pas voté dans le détail. Sur chaque page, sur chaque... Et on peut bien le souligner, il y a beaucoup dans cet accord qui va déplaire à beaucoup de députés britanniques. Tout le chapitre sur les protections droits de travailleurs, etc., les droits des citoyens, ce que la Grande-Bretagne doit payer à l'Union européenne, il y a beaucoup là-dedans qui va déplaire à pas mal de députés.
La loi oblige-t-il le Premier ministre britannique à demander aux Européens un nouveau report de 3 mois ? Alors, puisqu'on parle de ça aussi, Patrick Martin-Genier, on dit qu'il est obligé, Boris Johnson, de demander un nouveau report. Il a dit « je ne le demanderai pas ».
Non, mais Boris Johnson invente des nouveaux débats juridiques et politiques. Il considère que la loi ne l'oblige pas à faire un certain nombre de choses. Bon, c'est nouveau. Je ne l'avais jamais entendu avant dans la bouche d'un Premier ministre. Il a dit « je peux dissoudre, ajourner le Parlement comme je veux ». Finalement, c'est la Cour suprême qui lui a demandé de réunir le Parlement. Et demain, il y a une instance, lundi, à la Cour d'Écosse, justement, pour savoir si les juges peuvent enjoindre. Et j'ai même entendu que ce seraient les juges qui, éventuellement, pourraient écrire à l'Union européenne pour lui intimer l'ordre de solliciter un report du délai.
On peut juste ajouter que c'est les députés qui ont obligé Boris Johnson à envoyer cette lettre. Hein, grâce à qu'ils ont voté au mois de septembre.
Mais il a dit qu'il ne ferait pas.
Qu'il oblige à le faire.
On s'aperçoit de ce qu'est une république, une démocratie parlementaire. Ah. Hein. ou la force du Parlement.
C'est intéressant parce qu'on dit beaucoup que la Grande-Bretagne, on voit là les conséquences d'un pays qui n'a pas de constitution écrite, mais finalement, en fait, les institutions, ça marche.
Ils sont très solides.
Nouveau report, et puis quoi encore? Les Britanniques veulent toujours plus, et cette Europe qui courbe les Chines. Marion Van Rintergem, l'Europe est trop malléable là-dessus, parce que c'est vrai que les sondages d'opinion disent, écoutez, il faut un no deal, il faut que ça se termine, hein, y compris en France.
Je trouve qu'elle n'est pas trop malléable, elle s'adapte aux circonstances, parce que si elle était plus interventionniste, on lui reprocherait de faire la loi et d'intervenir sur la volonté du peuple britannique. Je trouve qu'elle se comporte assez bien, l'Europe, elle montre de la fermeté sur ses propres règles, c'est-à-dire que les Britanniques, ils ont voulu le beurre, l'argent du beurre et les frais de la crémière, là. ils ont vu que ça ne marchait pas, qu'il y avait un club qui tenait avec ses propres règles, qu'on n'allait pas se renier nous-mêmes et se suicider nous-mêmes pour leur faire plaisir. Donc ils se heurtent à une forme de mur de solidarité et conséquent sur ces règles juridiques, et en même temps suffisamment souple pour avoir déjà accordé des reports. C'est sans doute pas le dernier. De toute façon, le Brexit, c'est tellement mal ficelé depuis le départ, comme cette question était insoluble, que personne ne savait ce que ça voulait dire, ni avant, ni pendant, ni après. On en a pour des années, dans le meilleur des cas.
Bah oui, parce qu'il faut souligner que là, ce qu'on vit jusqu'ici, ce n'est que l'heure d'œuvre.
Voilà, parce qu'après, il va falloir...
Mais vous pouvez nous inviter tous les jours pendant 10 ans, on aura toujours quelque chose à dire.
Sur la relation future.
Il va falloir bâtir une nouvelle relation avec l'Angleterre, nouvelle version.
Et c'est là où va être défini.
Mais Anne-Elisabeth Moutet, pendant des années, on disait les tabloïds tapent sur l'Europe et tous les matins, c'est la faute de Bruxelles, etc. Là, pour le coup, le discours a changé. L'Europe ne peut pas servir de bouc émissaire dans les déboires du Brexit dans lequel s'est mis la Grande-Bretagne.
Non, mais elle ne peut pas servir de bouc émissaire pour tout. Mais je voudrais rappeler une déclaration de Jacques Delors que j'avais interviewé il y a des années. Avec cette fameuse page 1 du Sun qui disait « Appions de l'or », c'est-à-dire « va te faire de l'or à la suite de je ne sais plus trop quel épisode anti-européen. Et donc j'avais apporté ça à Jacques Delors en lui disant « qu'est-ce que vous en pensez ?» Il était président de la Commission à l'époque et il a dit « écoutez, vous pouvez dire une chose sur la Grande-Bretagne, bon ça ne me plaît pas spécialement, mais au moins il y a un débat populaire sur l'Europe et ça n'existe dans aucune des autres nations européennes. » C'était une manière élégante de répondre, mais c'est vrai aussi que l'une des choses qui a amené au Brexit, c'était justement cette absence totale, cette impression que quand l'Europe décidait quelque chose, les peuples devaient faire ce qu'on pensait qui était bon pour eux. C'est vrai, c'est une notion assez continentale et technocratique qui consiste à dire je sais plus de choses que vous et donc je vais faire votre bien. La Commission qui n'est en réalité, qui n'est pas tellement le corps politique de l'Europe, c'est le Conseil européen qui est le corps politique, mais qui, dans les faits...
Le Conseil européen, ce sont les chefs d'État.
Ce sont les chefs d'État et de gouvernement. La Commission a un rôle politique, mais quand on vient lui poser des questions politiques, même si ces questions sont fausses, ou en erreur, elle dit « Vous n'y comprenez rien, retournez à vos chères études, nous savons mieux que vous. » Eh ben, en politique, la perception, c'est la réalité, le ressenti, c'est la réalité, et il aurait peut-être fallu, depuis plusieurs années, que la Commission se pose la question de savoir comment on apporte des réponses politiques à ces questions techniques.
Le problème de fond du Brexit n'est-il pas que le Parlement n'est pas représentatif du peuple britannique? John Henley, on dit par exemple beaucoup qu'en Irlande du Nord, autant les élus sont très unionistes, mais les Irlandais du Nord, eux, accueillent bien volontiers cette réunification, entre guillemets, en marche avec la République.
C'est vrai, mais plus généralement, je trouve que c'est assez représentatif dans le sens où on l'oublie souvent. C'était la marge de victoire du vote Leave, donc pour quitter l'Union européenne, je veux dire, c'était 48-52. Je veux dire, ce n'est pas une énorme marge de victoire. Le fait que le Parlement n'arrive pas à mettre ce Brexit en œuvre a plus à voir, à mon avis, avec le fait que le Brexit qui a été promis n'existe pas. En gros, c'est ça. C'est que le peuple britannique, quand il était promis la Lune, les Brexiteurs ont dit il sera possible de quitter l'Union européenne et de garder tous les avantages. Et ce n'est pas vrai.
Parce que fondamentalement, ils ne pensaient pas que le peuple britannique voterait pour le Brexit.
Il l'attendait pas. David Cameron, certainement, il l'attendait pas.
Boris Johnson lui-même ne l'attendait pas puisqu'il s'est enfui le lendemain en ne voulant surtout pas prendre la responsabilité de ce qu'il avait accompli sans vouloir.
Et s'il avait accepté de devenir Premier ministre au départ, ça serait peut-être passé complètement différemment.
Boris Johnson va-t-il être contraint de démissionner?
Il a juré qu'il ne le fera jamais.
Non, mais une motion de défiance pourrait éventuellement intervenir pour le forcer à démissionner.
Les manifestants qui demandent un nouveau référendum pourraient-ils obtenir gain de cause ?
Oui.
Oui.
Oui. Bon. Eh bien, ça nous fera une autre émission, alors, un nouveau référendum.
Je pense que c'est la solution 35. La plus démocratique depuis le début. Ça fait 3 ans que je le dis, on se moque de moi depuis 3 ans. Enfin, je
pense qu'on va vous reviendrez en héros. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Demain, c'est Politique, Karim Rissouli. Vous restez avec nous, puisqu'à suivre sur France 5, c'est l'hebdo. Bonne soirée.